Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 29 janvier 2025 et tout va bien. Tout va à nouveau très bien parce que Nvidia a retrouvé des couleurs et que finalement l'arrivée de DeepSeek, ben, ça va pas les empêcher de faire plein plein de pognon. Et il faut donc pas s'inquiéter parce que Nvidia a repris 9% hier soir. Alors oui, il y a encore un peu de chemin à faire pour retrouver la place de numéro 1 mondial, surtout que Apple monte depuis 2 jours. Mais il faut être honnête, ça va vachement mieux et on respire mieux également. Ouf, encore une fois, ça n'était qu'une correction banale qui n'était en fait qu'une simple opportunité d'achat. Bref, le S&P 500 n'est plus très loin des records et le bon son de lundi est pratiquement oublié. Bon, alors pour être très franc, on va pas dire que tout est plié, que tout est réglé, mais disons que la vague de terreur qui nous a saisi lundi semble déjà être relativisée. Et puis hier, le marché avait l'air plutôt d'accord sur le principe de se dire que Nvidia, c'était quand même pas cher et que l'intelligence artificielle bon marché chinoise n'allait peut-être pas pour autant mettre à genoux tout de suite le géant des semi-conducteurs. Par contre, alors ce qu'il faudra retenir surtout et noter, c'est que le rebond n'était pas complètement unanime. Si on reprenait un peu la liste de ceux qui se sont fait massacrer lundi, pour certains par exemple comme Marvel ou AMD, on sentait quand même que les dépenses à venir risquaient d'être remises en question. Oui, car au cas où certaines sociétés revoyaient leurs dépenses liées à l'IA dans les prochains mois ou les prochaines années, eh bien on avait l'impression qu'il pourrait y avoir quelques doutes et quelques conséquences et tout le monde ne faisait pas l'unanimité dans le rebond. Alors du côté de Nvidia, bien sûr, il n'y a pas de problème, ça reste la star parmi les stars, mais sur les autres, le rebond était quand même un tout petit peu moins frappant ou moins significatif, si l'on peut s'exprimer ainsi. Broadcom, par exemple, n'a rebondi que de 2% ce mardi, alors que la chute de lundi était nettement plus violente. Donc finalement, celle qui s'en sort bien, comme d'habitude, c'est Nvidia, et c'est vraiment la meilleure société du monde, ou presque en tous les cas. Mais bon, à la fin, ce qu'il faut retenir de ces deux premiers jours de la semaine, c'est que les géants de la tech, c'est surtout eux qui ont remis le S&P et le Nasdaq sur les rails. Le patron de Microsoft a même déclaré que si l'IA bon marché arrivait vraiment ces prochains temps, eh bien, les volumes produits qui seront liés à l'intelligence artificielle allaient également, du coup, exploser, puisque moins cher. Donc, du coup, l'impact financier pourrait être quelque part amorti par une explosion des volumes des ventes. Tout ça pour dire qu'en prenant un peu de recul, on s'est dit que finalement, DeepSeek, c'était pas si moche que ça pour la technologie et qu'en plus le gouvernement américain allait quand même mettre son nez dedans, ce qui allait aussi potentiellement freiner les rêves de grandeur de l'application chinoise. En résumé, lorsque l'on regarde le graphique du S&P 500, on se dit que la baisse de lundi, bah, c'était pas si immonde que ça, et que pendant que Nvidia se faisait déglinguer, il y avait quand même des grands noms qui s'en sortaient plutôt pas mal, entre autres des noms comme Apple ou Meta qui sont tous les deux en hausse sur les deux premiers jours de la semaine. Et entre les extrêmes bas de lundi à l'ouverture et l'ouverture indiquée de cet après-midi, le S&P 500 a tout de même repris 2,4% et se trouve aujourd'hui à 1% des plus hauts historiques. Pour ce qui est de Nvidia, il y a encore 20$ à récupérer pour oublier la séance de lundi, mais quand même, ça allait globalement beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, la séance d'hier aura été bien plus apaisée, et même si la facture est encore relativement lourde sur ces deux journées, on sent quand même qu'on a retrouvé nos esprits et que le vent de panique avait été très bref, violent, mais bref. Les intervenants semblent donc avoir retrouvé un sentiment de confiance et tout le monde a le regard tourné vers l'avenir maintenant. Et l'avenir, eh bien, c'est les chiffres trimestriels qui vont être publiés entre maintenant et vendredi soir. Et ça risque d'être super intéressant parce que les noms qui vont monter sur scène dans les heures à venir, bah, ils ont clairement le pouvoir de faire beaucoup de choses comme nous faire remonter par exemple au plus haut de tous les temps. D'ailleurs, on va commencer tout de suite ce matin, on va le voir tout à l'heure avec les chiffres d'ASML qui vont donner la tendance dans le secteur des semi-conducteurs, puisqu'on sait que si ASML va, eh bien tout ira bien, puisque le géant hollandais est le premier à qui on fait appel lorsqu'on démarre une nouvelle chaîne de production dans le secteur des semi-conducteurs. Et puis ensuite, ce soir, eh bien, il y aura l'ami de Trump qui publiera ses chiffres sur ses voitures électriques, mais pas que. Oui, pas que, parce que on sait que Tesla, c'est pas que des voitures électriques. Et puis, il y aura aussi Microsoft et Meta. Meta qui est tout de même au plus haut de tous les temps, il faut quand même le noter. Alors qu'on ressort d'une journée de lundi qui avait été cataclysmique pour certaines parties de la technologie aux États-Unis, mais visiblement pas celui des réseaux sociaux. Tout ça pour pour dire que ce mardi, nous avons très rapidement oublié le cas DeepSeek en se raccrochant au fait que ça ne sera pas si moche que ça à la fin, même si on n'est pas sûr de grand-chose. Et on s'est dit que les Magnificent Seven ou les Batman, eh bien, c'était quand même pas mal. D'ailleurs, truc de fou, en lisant la presse de ce matin, j'ai même trouvé des gens qui arrivent à parler du FOMC meeting qui se termine ce soir et qui devrait donc se conclure avec un statu quo sans faille, puisqu'aujourd'hui, on sait que 97% des experts s'attendent à que Powell ne fasse tout simplement rien. D'ailleurs, la seule chose qui va intéresser les gens ce soir, c'est de voir, d'essayer de savoir un peu comment Powell se positionne par rapport aux exigences de Trump au sujet de la baisse des taux. Pour le reste, bah, la Fed, ça risque d'être un gros non-event pour ce mois. Alors, si je devais conclure cette vidéo juste là, eh bien, on pourrait dire que la catastrophe de lundi n'était pas si catastrophique et représentait plutôt une superbe opportunité d'achat plutôt qu'autre chose. Et après tout, les grosses bertas de la tech resteront toujours les rois du monde et que dans quelques heures, on devrait en avoir le cœur net. Après, on peut aussi ajouter qu'au milieu de ces messages rassurants et remotivants, il y avait quand même Nassim Taleb et Mark Spitznagel qui étaient quand même très méfiants par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours. L'auteur du Black Swan estime que ce qui s'est passé sur Nvidia, c'est que le début et que la situation quasi monopolistique du géant des semi-conducteurs devrait avoir à terme des conséquences sur ses finances et sur les attentes des marchés ces prochains trimestres. Donc, selon Taleb, eh bien, la chute de lundi va se reproduire plusieurs fois et pense que ce sera bien pire et les prochaines. Il a aussi ajouté que le marché était hyper fragile et la correction de lundi l'a très très bien démontré selon lui et donc il en a aussi profité pour rappeler au cas où on a oublié que les Magnificent Seven sont responsables de 50% de la hausse du S&P 500 pour l'année 2024 et que comme d'habitude l'ultra concentration eh bien c'est jamais très très bon pour les marchés. Reste maintenant à voir si les publications des stars de la tech qui vont arriver ces prochains jours et ces prochaines heures donnent raison à Nassim Taleb tout de suite, ou s'il faut encore attendre quelques trimestres pour que ces prévisions apocalyptiques se produisent. Et puis alors, pour ce qui est de Mark Spitznagel, c'est le directeur des investissements d'Universa Investment, hein, c'est un hedge fund pour lequel Taleb travaille, et bien lui, il a comparé la hausse des valeurs technologiques de ces dernières années à la bulle Internet, ajoutant que le marché semble clairement actuellement se trouver dans la plus grosse bulle de l'histoire de l'humanité, rien que ça. Alors on sait que les dinosaures ont disparu à cause d'une météorite, et si ça se trouve, l'humanité va disparaître à cause de DeepSeek. Bref, toute plaisanterie mise à part, les marchés ont rebondi un peu et Nvidia va mieux un peu. Par contre, il y a quand même pas mal de chiffres trimestriels qui sont sortis et quand on voit les variations des actions concernées, on peut commencer à se dire qu'il va y avoir du sport ces prochains jours. Par exemple, Boeing, c'est un mauvais exemple, Boeing, parce qu'en fait, elle fait partie de celles qui n'ont pas vraiment bougé après avoir annoncé la plus grosse perte de ces 4 dernières années. Bon, c'était déjà un profit warning qui avait été fait, donc ça a surpris personne. Et puis, ben, c'était quand même très très moche, on le savait. Boeing a perdu 11,8 milliards et le titre montait quand même de 1,5%, comme quoi on peut dire que c'était dans les prix. En revanche, chez General Motors, c'était très moche aussi, mais par contre là, on n'avait pas été prévenu, donc le titre a plongé de 9% après avoir annoncé une perte de quasiment 3 milliards de dollars au quatrième trimestre. Ah, ça, c'était justifié par des charges monstrueuses qui ont été prises sur leurs activités chinoises. Le chiffre d'affaires, lui, en revanche, était meilleur que les attentes, mais ça n'a clairement pas suffi. Le titre s'est donc fait taper sur le groin toute la séance. On notera aussi l'effondrement de JetBlue, qui a publié des chiffres meilleurs que les attentes, mais qui a aussi annoncé des prévisions très faibles pour l'avenir, et le titre perdait 26%, on voit clairement qu'il n'y aura pas de prisonniers cette saison. Lockheed Martin a dégringolé également depuis 9%, de plus de 9%. Lockheed Martin a dégringolé également de plus de 9%, après avoir annoncé un bénéfice net en chute libre au quatrième trimestre, un peu comme les F-35. Là aussi, c'était à cause des charges exceptionnelles de 1,7 milliard, comme quoi, visiblement, la guerre ne suffit pas. En revanche, au chapitre bonne nouvelle, Royal Caribbean a explosé de plus de 12% après avoir publié un bénéfice net de 10,94$ par action, ce qui dépassait nettement les attentes des dieux de la finance. Et puis hier soir, il y avait encore Starbucks qui publiait ses chiffres, des chiffres qui n'ont pas eu un grand impact sur le cours de l'action, mais qui démontrent quand même une amélioration de l'opérationnel chez Starbucks. Les choses s'améliorent et on voit que les restructurations qui ont été mises en place par le nouveau CEO semblent fonctionner, donc Starbucks fera partie des titres qu'il faudra surveiller ces prochains temps. On notera aussi des bons chiffres chez SAP, mais qui n'ont pas eu grande influence sur le cours de l'action. Et puis Logitech a annoncé hier soir que ses revenus nets pour le troisième trimestre ont diminué alors que les ventes nettes ont augmenté d'une année sur l'autre. Alors, les chiffres ont été annoncés hier soir après la clôture américaine et le titre montait de 2% after close. Et puis alors, il faut absolument que l'on parle de LVMH. Alors vous savez que le luxe est très à la mode en ce moment. Et bien hier soir, le géant français a donc annoncé un bénéfice en baisse pour 2024. La faute à la faiblesse aux surprises de la demande en Chine, mais pas que, hein, parce que c'est aussi la faute d'un ralentissement des dépenses personnelles en général, donc c'est un peu de votre faute aussi. Pour l'année 2024, la société de Bernard Arnault a dégagé un bénéfice net de 12,55 milliards contre 15,17 milliards en 2023, soit une baisse de 17%. Le résultat opérationnel est de 19,57 milliards, en repli de 14%, tandis que le chiffre d'affaires a reculé de 2% à 84,68 milliards. La croissance reste de 1% en organique malgré un environnement économique qu'ils ont jugé difficile, économique et géopolitique qui était difficile. Ils ont également constaté un recul des ventes dans 3 des 5 divisions, donc la mode maroquinerie qui perdait 1%, les montres joaillerie qui perdaient 2%, les vins les spiritueux moins 8% sur l'ensemble de l'année écoulée. Par contre, en revanche, ça va bien du côté parfum plus 4% et la distribution sélective plus 6%. Eux sont en pleine forme avec un contexte de reprise du tourisme en Europe, selon le communiqué de presse de LVMH. Alors, si on se base sur les attentes des analystes, il n'y a que le chiffre d'affaires qui était légèrement meilleur que les attentes, le reste est plutôt en dessous des attentes. Hier soir, à New York, le titre se traitait en baisse de 2%. Reste à voir comment Paris, le marché de cœur de LVMH, va le prendre ce matin. Une chose est sûre, c'était mieux chez Richemont, en tout cas plus enthousiaste, surtout dans la publication et dans le communiqué de presse qu'ils ont fait il y a 10 jours en arrière. Et puis, il y avait surtout le discours de Bernard Arnault. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais disons que le peu que j'ai entendu ou que j'ai lu, j'avais assez envie de m'ouvrir les veines avec un couteau à beurre tellement il avait l'air déprimé. Il a surtout exprimé qu'il venait de vivre une année bien pourrie et que c'était plus ou moins la pire depuis la reprise du Covid. Il a aussi expliqué qu'il revenait des USA puisqu'il était invité par Trump à son investiture, contrairement au président, et que selon lui, les USA, c'est vachement plus dynamique, alors que la France, c'est profondément déprimant. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il a qualifié son retour dans l'Hexagone de douche froide. Et puis, il a aussi estimé que fiscalement, Trump proposait des choses très, très intéressantes avec des taxations à 15%, alors que le gouvernement de Macronie va leur augmenter leurs impôts, les pauvres, de 40%, soi-disant, juste pour une année. Mais bon, visiblement, Bernard Arnault a bien expliqué qu'il n'y croyait pas une seconde et que personne n'osera baisser les impôts de 40% dans 24 mois. En substance, son discours était déprimant, un peu comme la fiscalité française, apparemment, et on a bien senti 2-3 attaques directes contre le gouvernement qui va aller ponctionner les Français après avoir totalement merdé financièrement depuis 7 ans. D'ailleurs, le responsable est parti étudier en Suisse pour s'améliorer. Bref, si on reprend le discours de Bernard Arnault point par point, on a presque l'impression qu'il menace de délocaliser LVMH aux États-Unis. C'est vrai, du coup, il paierait pas de taxes douanières et il paiera pas non plus pour les conneries de Bruno. Et puis, il faut le reconnaître, si LVMH s'en va aux States, ça sera quand même super rigolo à observer. On se réjouit déjà de voir certains politiciens français en PLS. Bref, les chiffres de LVMH, c'était pas Byzance, mais Bernard Arnault a encore les moyens de se déplacer en jet privé. C'est que ça va pas si mal. Et puis, même s'il a l'air un tout petit peu déprimé, il faut le dire. Dans les nouvelles du jour, Microsoft et OpenAI enquêtent pour savoir si un groupe lié à DeepSeek a obtenu les données d'OpenAI, aurait fait du copier-coller pour créer leur moteur, là. Et selon le FT, ils auraient même déjà des preuves. Et puis dans la foulée, la Navy déclare que le DeepSeek n'est pas le bienvenu dans ces systèmes pour des raisons de sécurité et parce que c'est chinois, ce qui veut dire un peu la même chose. Pendant ce temps, Apple a discrètement mis en place la prise en charge de Starlink sur les iPhones avec la dernière mise à jour. Le même coin de Trump peut désormais être utilisé pour acheter des montres et des chaussures de sport. Et puis l'Ozempic de Novo Nordisk a obtenu son approbation pour les maladies rénales, élargissant encore un petit peu plus le spectre d'utilisation. Donc on a un peu l'impression que ce médicament, il fait tout. Il fonctionne sur toutes les maladies. On ne sait pas encore s'il fait revenir l'être aimé et ou s'il peut concurrencer le Viagra, mais ça ne saurait tarder. Et puis dans le secteur bancaire, après l'UBS, c'est Julius Baer qui s'apprête à annoncer des centaines de licenciements au cours des 2 prochaines années, alors que le nouveau directeur, se concentre sur la réduction des coûts. Les suppressions d'emplois devraient concerner à peu près toutes les divisions. Et on parle d'une taille de plus ou moins 10%, plutôt moins de 10%, un petit peu moins de 10% au niveau de la réduction du staff. Et ils vont, là, pour une fois, aussi réduire la taille du board. Pour le reste, on attend la Fed ce soir, le climat de consommation en Allemagne et les inventaires pétroliers. À l'heure actuelle, les futurs sont plus ou moins inchangés. Et puis, moi, comme d'habitude, je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit pour vous parler, de la Fed, des taux, de Trump, des résultats trimestriels de Tesla, de Microsoft et de Meta. Et puis, probablement aussi un tout petit peu d'intelligence artificielle. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de la commenter. Et n'oubliez surtout pas de revenir demain matin. Allez, très bonne journée à tous et à demain. Bye bye.